Chapitre 11. Le cerveau d'Albert était totalement vide, impossible d'articuler deux idées, d'imaginer comment les choses allaient se passer. Il tentait de mettre de l'ordre dans ses impressions, mais rien ne s'ordonnait. En marchant à grands pas, il ne faisait que caresser machinalement la lame du couteau enfoncé dans sa poche. Le temps pouvait passer, les stations de métro défiler, puis les rues. Pas la moindre idée constructive. Il ne croyait pas lui-même à ce qu'il faisait, mais il le faisait tout de même, il était prêt à tout. Cette histoire de morphine, depuis le début, c'était la bouteille à l'encre. Édouard ne pouvait plus s'en passer. Jusqu'à présent, Albert était parvenu à pourvoir à ses besoins. Cette fois, il avait eu beau racler les fonds de tiroir, il n'y avait plus assez d'argent. Aussi, quand son camarade, au terme d'interminables jours de souffrance, l'avait supplié de l'achever tant les douleurs étaient insupportables, Albert, épuisé lui aussi, avait-il cessé de réfléchir. Il avait attrapé un couteau de cuisine, le premier qui lui était tombé sous la main. Il était descendu, comme un automate, il avait pris le métro jusqu'à la Bastille et avait plongé dans le quartier grec, du côté de la rue Sedaine. Il devait trouver de la morphine pour Édouard. Il était prêt à tuer s'il le fallait. La première pensée lui vint enfin lorsqu'il découvrit le grec, un homme d'une trentaine d'années, pachydermique, qui marchait les pieds très écartés, soufflant à chaque pas, transpirant malgré la température de novembre. Albert regarda, affolé, son énorme ventre, ses gros seins lourds qui ballottaient sous son pull en laine, son cou de bovin, ses bajoues tombantes. Il pensa que son couteau ne servirait à rien, il aurait fallu une lame d'au moins 15 centimètres ou 20. La situation n'était déjà pas brillante, maintenant, être mal équipé lui mettait le moral à zéro. « C'est toujours comme ça, » disait sa mère, « incapable de t'organiser. Est-ce que tu peux être imprévoyant, mon pauvre garçon ?» Et elle levait les yeux au plafond pour prendre Dieu à témoin. Devant son nouveau mari, c'était manière de dire, il n'était pas marié, mais Madame Maillard ramenait tout à la normale, elle se plaignait davantage de son fils. Le beau-père, lui, chef de rayon à la Samaritaine, se contentait de détailler ses lacets, mais le dépit était le même. Face à eux, et même s'il en avait trouvé la force, Albert aurait eu bien du mal à se défendre parce qu'il leur donnait chaque jour un peu plus raison. Tout avait l'air de se liguer contre lui. C'était vraiment une époque difficile. Le rendez-vous était fixé près de la Pissotière à l'angle de la rue Saint-Sabin. Albert n'avait pas la moindre idée de la manière dont ça se passait. Il avait contacté le grec en téléphonant dans un café, de la part de quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Le grec n'avait posé aucune question, vu qu'il ne parlait pas 20 mots de français. Antanopoulos, tout le monde disait Poulos, même lui. Poulos, dit-il d'ailleurs en arrivant. Pour un homme de cette corpulence exceptionnelle, il se déplaçait étonnamment vite, à petits pas serrés, rapide comme tout. Le couteau trop court, la vélocité du type, le plan d'Albert était vraiment vaseux. Après avoir jeté un œil alentour, le grec le saisit par le bras et l'entraîna dans la Pissotière. L'eau n'y avait pas coulé depuis longtemps, l'atmosphère était irrespirable, ce qui n'avait pas l'air de gêner Poulos le moins du monde, cet endroit fétide, c'était un peu comme sa salle d'attente. Pour Albert, qui redoutait tous les espaces confinés, la torture était double. « Argent ?» demanda le grec. Il voulait voir les billets et désigna du regard la poche d'Albert sans savoir qu'elle contenait un couteau dont la taille, à présent que les deux hommes se serraient l'un contre l'autre dans la Pissotière, s'avérait encore plus dérisoire. Albert se tourna légèrement de côté pour montrer l'autre poche, laissa ostensiblement dépasser plusieurs billets de 20 francs. Poulos répondit par un signe d'acquiescement. « 5 !» dit-il. C'est ce qui était convenu au téléphone. Le grec se retourna pour partir. « Attends !» cria Albert en le rattrapant par la manche. Poulos s'arrêta, le regarda, inquiet. « Il m'en faut davantage !» chuchota Albert. Il articula exagérément en joignant le geste à la parole, quand il s'adressait à des étrangers, il leur parlait fréquemment comme s'ils étaient sourds. Poulos fronça ses gros sourcils. 12, dit Albert. Et il exhiba toute la liasse de billets, mais qu'il ne pouvait pas dépenser, parce que c'était tout ce dont il disposait pour tenir encore près de 3 semaines. Le regard de Poulos s'alluma, il pointa le doigt vers Albert, approuva de la tête. 12, reste. Il sortit. Non, l'arrêta Albert. L'odeur pestilentielle de la pissotière et la perspective de quitter ce réduit exigu où il sentait, minute après minute, monter l'angoisse, l'aidèrent à adopter un ton convaincant. Son seul stratagème consistait à trouver le moyen d'accompagner le grec. Poulos fit non de la tête. « D'accord, » dit Albert en passant résolument devant lui. Le grec le rattrapa par la manche, hésita une seconde. Albert faisait pitié, c'était sa force, parfois. Il n'avait pas besoin de forcer le trait pour avoir l'air minable. Après 8 mois de vie civile, il portait toujours ses vêtements de démobilisé. À sa libération, il avait eu le choix entre un vêtement ou 52 francs. Il avait opté pour le vêtement parce qu'il avait froid. En réalité, l'État refourguait aux anciens poilus de vieilles vareuses militaires reteintes à la hâte. Le soir même, sous la pluie, la teinture avait commencé à dégouliner, des traînées d'un triste. Albert était revenu, disant que, finalement, il préférait les 52 francs, mais c'était trop tard, il fallait réfléchir avant. Il avait aussi conservé ses brodequins, déjà à la moitié de leur existence, et 2 couvertures militaires. Tout cela avait laissé des traces sur lui, et pas seulement des traces de teinture. Il avait ce visage découragé, fatigué, qu'on voyait à beaucoup de démobilisés, quelque chose de défait, de résigné. Le grec considéra cette mine tirée et se décida. « Allez, vite » chuchota-t-il. À partir de cet instant, Albert rentrait dans l'inconnu, il n'avait pas la moindre idée de la manière dont il devait s'y prendre. Les 2 hommes remontèrent la rue Sedaine jusqu'au passage Salarnier. Arrivé là, Poulos montra le trottoir, disant à nouveau « Reste !» Albert examina les alentours, désert. À 19 heures passées, les seules lumières étaient celles d'un café à 100 mètres. « Ici !» Un ordre sans appel. D'ailleurs, le grec n'attendit pas la réponse et s'éloigna. À plusieurs reprises, il se retourna pour vérifier que son client restait sagement à sa place. Albert le regarda filer, impuissant. Mais lorsque le grec tourna brusquement sur sa droite, il se mit à courir, remontant à son tour le passage aussi vite qu'il le pouvait, sans quitter des yeux l'endroit où Poulos avait disparu, à un immeuble délabré d'où émanaient de fortes odeurs de cuisine. Albert poussa la porte, avança dans un couloir. Là, quelques marches conduisaient à un entresol. Il descendit. Une fenêtre au carreau sale laissait filtrer un peu de la lumière du réverbère de la rue. Il aperçut le grec accroupi, qui fouillait du bras gauche un emplacement ménagé dans le mur. Il avait posé près de lui la petite porte en bois qui servait à en masquer l'entrée. Albert ne s'arrêta pas une seconde dans sa course. Il traversa la cave, saisit la porte, nettement plus lourde qu'il pensait, et l'asséna des 2 mains sur la tête du grec. Le coup sonna comme un gong. Poulos s'effondra. Albert ne comprit qu'à ce moment-là ce qu'il venait de faire, si terrifié qu'il voulut s'enfuir. Il se reprit. Le grec était-il mort? Albert se pencha, écouta. Poulos respirait lourdement. Difficile de savoir s'il était grièvement atteint, mais un filet de sang s'écoulait de son crâne. Albert était dans un état de stupeur proche de l'évanouissement. Il serrait les poings en se répétant « Allez, allez !» Il se baissa, plongea le bras dans le réduit et en sortit un carton à chaussures. Un vrai miracle. Entièrement rempli d'ampoules de 20 et 30 mg. Pour les doses, depuis le temps, Albert avait l'œil. Il referma le carton, se leva et vit soudain le bras de Poulos dessiner un large arc de cercle. Lui au moins savait s'équiper. C'était un vrai couteau à cran d'arrêt avec une vraie lame, très affilée. Elle atteignit la main gauche d'Albert tellement vite qu'il ne sentit qu'un intense filet de chaleur. Il tournoya sur lui-même, sa jambe en l'air, et son talon atteignit le grec à la tempe. Son crâne rebondit contre le mur en produisant un bruit de gong. Albert, sans lâcher son carton à chaussures, écrasa de plusieurs coups de godillot la main de Poulos qui tenait encore le couteau, puis il posa le carton, reprit la porte en bois à deux mains et se mit à lui marteler la tête. Il s'arrêta. Il était très essoufflé par l'effort, par la peur. Il saignait abondamment. Sa coupure à la main était très profonde, sa vareuse largement tachée. La vue du sang le terrifiait toujours. La douleur lui parvint à ce moment-là, lui rappelant aux mesures d'urgence. Il fouilla dans la cave, trouva un morceau de tissu poussiéreux qu'il enroula serré autour de sa main gauche. Craintif, comme s'il devait s'approcher d'un animal sauvage endormi, il alla se pencher sur le corps du grec. Il entendit sa lourde respiration, régulière. Pas de doute, il avait la tête dure. Après quoi, Albert quitta l'immeuble en tremblant, son carton sous le bras. Avec une blessure pareille, il fallait renoncer à prendre le métro ou le tramway. Il parvint à dissimuler son bandage de fortune, les taches de sang sur sa vareuse et à attraper un taxi à la Bastille. Le chauffeur était à peu près du même âge que lui. Tout en conduisant, il observa longuement, avec défiance, ce client blanc comme un linge qui se tenait sur le bout de son siège et se balançait en serrant son bras contre son ventre. Son inquiétude redoubla lorsque Albert ouvrit d'autorité la fenêtre parce que ce lieu fermé lui causait une inquiétude difficilement maîtrisable. Le chauffeur pensa même que son client allait vomir, là, dans sa voiture. « Vous n'êtes pas malade, au moins ?»« Non, non, » répondit Albert en mobilisant toute la tonicité qui lui restait. « Parce que, si vous êtes malade, je vous descends là, moi. »« Non, non, » protesta Albert, « je suis seulement fatigué. » Malgré cela, dans l'esprit du chauffeur, le doute montait. « Vous êtes sûr que vous avez de l'argent ?» Albert sortit un billet de 20 francs de sa poche et le lui montra. Le chauffeur fut rassuré, mais un court moment seulement. Il avait l'habitude, il avait l'expérience, et c'était son taxi. Il était néanmoins de nature commerçante, pas à une bassesse près. « Excuse, hein, je dis ça parce que les gens comme vous, bien souvent... C'est qui les gens comme moi ?» demanda Albert. « Je veux dire, les gars qui sont démobilisés, quoi, enfin, vous voyez. » Parce que vous n'êtes pas démobilisé, vous ?
Non, moi, j'ai fait la guerre ici, je suis asthmatique. Et j'ai une jambe plus courte que l'autre.
Il y a pas mal de gars qui y seraient allés quand même, certains sont même revenus avec une jambe nettement plus courte que l'autre. Le chauffeur le prit très mal.
C'était tout le temps comme ça, les démobilisés la ramenaient sans arrêt avec leur guerre, toujours à donner des leçons à tout le monde. On commençait à en avoir marre des héros. Les vrais héros étaient morts, ceux-là, des héros, des vrais. Et puis d'ailleurs, quand un type vous racontait trop de choses vécues dans les tranchées, valait mieux se méfier, la plupart avaient passé toute leur guerre dans un bureau.
« Parce que nous, on n'a pas fait aussi notre devoir peut-être » demanda-t-il.
Qu'est-ce qu'ils en savaient, les démobilisés, de la vie qu'on avait eue avec toutes ces privations ?
Albert en avait entendu de ces phrases-là. Il les connaissait par cœur. Avec le prix du charbon et celui du pain, c'était le genre d'information qu'il retenait le plus facilement. Il le constatait depuis sa démobilisation. Pour vivre tranquille, mieux valait remiser dans le tiroir ses galons de vainqueur. Le taxi le déposa enfin à l'angle de la rue Simard, demanda 12 francs et attendit pour partir qu'Albert donne le pourboire.